Chapitre 7. Le travail manque aux champs. La moisson et la vendange ont peu produit, sauf dans le domaine de Valdez. Si le chômage continue, on ne pourra plus acheter de quoi pétrir son pain. Jamais, quand même il faudrait vendre le potager et le carré de luzerne qui s'étend sous le faïal, jamais les Mauracs ne se résoudront à mener au marché de Caussade les taurins qui deviennent si beaux. Voici, heureusement, le temps de tuer le cochon. Ils devisent de leurs affaires les pauvres de l'Espille, au bord du ruisseau, sous les ormes du chemin délaissé, où les ménagères étendent leurs lessives. Fine écoute. Depuis son retour du château, une idée d'ambition rumine en elle. Philomène, bien des fois, en trempant la soupe, distingue avec son regard de fouine une inquiétude qui ride le visage de sa fille, ou son bonheur qui l'éclaire. Philomène n'articule pas une observation, étant de ces paysannes qui couvent longuement, sournoisement, leurs projets. Elle pressent de nouveau, et loin d'ouvrir ses doutes à Calice, elle recèle en son imagination ses idées plaisantes et s'en approvisionne avec égoïsme. Fine revoit souvent les mains tremblantes de M. Maurice le soir de la noce au vendange. Elle sent la chaude pression qui l'entraînait, et, à son oreille, chuchote toujours les mots de caresse dont elle rit naïvement. « Ils sont si forts, si intelligents, les riches !» Un jour de pluie, Toine partit chercher de l'ouvrage vers Moissac. En route, il demanderait son pain dans les granges cossues, il boirait au ruisseau. Après une saison dans les plaines de la Garonne, il reviendrait à l'Espille et ce pays de Montpezat, à qui honnêtement il porterait l'argent de son travail, lui pardonnerait d'avoir une fois manqué de confiance en sa terre. Les Mauracs excusaient leur fils, car la misère s'enfonçait trop dans les rocs du Quercy. Jamais on n'avait vu, par toute la commune, tant de vols et de péchés étalés en plein jour, comme les tripes de lapins exposées lors des fêtes votives, au seuil des auberges. Les enfants, dans beaucoup de maisons, ne mangeaient que le pain du péché. M. Andour, l'ancien notaire, soignant à petits frais sa chair, au fond de sa tanière tapie contre l'octroi, taillait dans la détresse des paysans comme dans une pièce de drap sans limite. Calice bourdonnait constamment ses bonnes histoires de bénéfices aux oreilles de sa femme, laquelle, rougissant, s'abritait sous le manteau de la cheminée. Calice avait, au coin des yeux, sur les plis minces de sa bouche, des idées criminelles de lucre. Il était fatigué de mourir de faim. Il aurait vendu sa famille pour ne pas emprunter un liard sur sa chaumière et ne point céder sa paire de taurins. Philomène, un jour, dut presser ses mains sur ses oreilles pour ne pas entendre les tentations et les menaces de son maître. Elle n'osait le regarder. Elle demeurait impassible sur sa chaise, dans la cheminée, avec une répugnance qui surexcita davantage la colère de Calixte. Il cria « Après tout, quoi? Monsieur Andour n'est pas si mal. Non, il n'est pas si mal que tu crois. Puis, un monsieur de cette importance, toujours luisant comme une glace, ça ne peut pas salir. Puisque nous vivons dans un bois avec tant de loups et de renards, il faut que je me défende et que tu nous sauves. » D'abord, les gens ne sauront rien. La nuit, Philomène, sous l'orage, baissait la tête. Calice, croyant qu'elle cédait, poursuivit avec douceur. Tais, veux-tu que je t'accompagne, moi? Les gens ne se douteraient pas. T'accompagner jusqu'à l'octroi, veux-tu? Philomène, suffoquée de honte, se leva brusquement. Elle courut au chevet du lit, dans l'ombre, s'agenouiller. Et, les mains jointes, elle dit une prière. Calice, offensé par la vertu de son épouse, s'indigna. Marchant de long en large, il cria plus fort. « Tu as tort, Philomène, tu cherches à m'humilier, à me laisser tout seul dans ma douleur. Ce n'est pas bien, toi seul peux nous sauver. Reine, on n'en voudrait pas, elle court trop, sans presque rien nous apporter. Fine, je ne pourrai plus la marier, et moi, je n'ai pas d'ouvrage. Tu comprends, Philomène ?»«
Non, je ne veux pas comprendre !» répondit la brave paysanne que le sentiment de sa religion soutenait au bord de l'abîme, dans les affres de la misère.
Elle se redressa, si résolue, si belle de révolte et de probité, que le maître recula et, baissant la tête à son tour, s'éloigna vers les champs du ruisseau. Ce ne fut qu'une crise de désespoir chez les Mauracs.
Calice s'apaisa devant le dévouement de Philomène, que ne rebutait aucune besogne. Reine les aidait beaucoup. Elle avait pitié pour sa mère. Elle apprenait la couture chez la faiseuse de robes de Montpezat. Partout, même dans les maisons aisées, la misère roulait ses ondes de ténèbres que rien ne peut chasser. La veuve Radelle aurait perdu ses airs de tranquillité si M. Adour et Ambroise ne lui avaient fourni des sous, de la viande, des légumes. Le forgeron Guibal bâillait tout le jour sous la treille du cabaret de l'Europe, devant les tables nues, sans bourrer une pipe. Il avait envoyé ses comptes à toute sa clientèle et c'était dans la commune un hurrah d'imprécations contre ce forcené qui avait attendu le mauvais temps pour tracasser le pauvre monde.